Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Très tôt, passionné par le rire. Mais vraiment passionné par le rire. C'est-à-dire que je l'ai réalisé un jour sur scène et j'ai failli m'effondrer en larmes. Il y avait mes parents dans la salle et j'ai entendu le rire de mes parents et j'ai revécu la scène de moi, petit garçon, avec mes parents devant la télé à regarder un film de De Funès et les entendre rire et me dire « Je veux provoquer le même son chez mes parents. »
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Mickaël, quel bonheur de t'avoir à mon micro.
Bah, bonheur partagé. Hein.
Oh là là. Alors, tu fais partie du gang de ce groupe que j'ai rencontré il y a un an et demi maintenant.
Ouais.
Grâce au Cercle des Créateurs, là, dont je vous ai déjà entendu parler. Je vous ai déjà parlé, pas du tout. Et en fait, on a, juste pour redonner un peu de contexte, je déteste les podcasteurs qui font ça, mais je trouve que c'est trop intéressant parce que c'est des podcasteurs qui font sans arrêt. Alors, tu te souviens, on s'est rencontrés, bah, les couilles. Mais en fait, c'est très intéressant parce qu'on s'est retrouvés dans ce groupe. À venir discuter de nos prises de tête, etc. Et déjà, c'est l'occasion de te remercier officiellement parce que c'est grâce à toi que le podcast Histoire d'argent est sorti parce qu'on a fait, on a eu une discussion pendant 2 heures d'argent et tu m'as dit, dis donc, ça en ferait un bon podcast. Et j'ai fait, mais c'est pas la moitié d'une idée à la con, ça.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il faut qu'on parle d'argent à ce propos pour l'idée de Histoire d'argent.
Il faut que tu prends combien?
Bah écoute, je sais pas, on va faire un épisode d'Histoire d'argent sur la négociation.
Oh,
ça, ce serait délire.
Oh, ça serait magnifique.
Ouais.
ça serait tellement drôle. On va faire ça. Donc ouais, déjà merci pour ça. Et aussi, ouais, en fait, ce cercle là, enfin ce groupe qu'on a créé était hyper intéressant parce que on venait de d'environnements très différents et de milieux très différents. Et en fait, on s'est rencontrés et on s'est rendu compte aussi, enfin, je sais pas trop comment tu l'as vécu, mais à quel point, en échangeant comme ça, pas au quotidien, mais toutes les semaines de façon hebdomadaire sur les prises de tête qui nous marquaient, etc., on finissait par avoir tous plus ou moins les mêmes problèmes, tous plus ou moins les mêmes problématiques et tous plus ou moins des réponses ou des façons d'aborder les prises de tête des autres de façon très, très différente.
Ouais.
Je sais pas comment tu l'as vécu, toi.
Ouais, je l'ai vécu comme ça, mais je crois qu'on partait un peu quand même. Nos situations étaient très différentes, mais on partait un petit peu du même état, qui était ce post-Covid, où on était quasiment en plein dedans aussi.
C'était avril 2021, donc c'était...
Ouais, on était encore dedans. Et où on était tous un peu isolés.
Ah, c'est vrai.
Et donc, confrontés à ce problème, quand on entreprend... quand on est soit freelance, soit comédien, soit podcasteur, etc., où à un moment, en fait, le fait d'être isolé, de ne pas pouvoir échanger, de ne pas avoir de groupe de pairs, en fait.
De pairs, P-A-I-R-S.
Exactement.
Vous allez voir, Mickaël. Et...
Ouais.
Joue avec les mots, hein, c'est voilà, son métier.
C'est un peu mon métier. Donc, on a créé la fête des pairs.
Allez, voilà, comme je vous le disais.
et... Et ça, je crois, enfin, en tout cas, moi, j'y ai trouvé, c'était vraiment ce que je cherchais en venant dans le sac des créateurs. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est vu grandir en parallèle et un peu en même temps. Mm. C'est très beau. Et puis, je crois que ça nous a vachement rapprochés, là, tous.
Je crois aussi.
Ouais.
Tu dis ça avec... C'était une forme d'interrogation ou pas du tout?
Ouais. Tu sais, okay. C'est, tu sais, c'est le type qui a un peu peur, qui, tu sais, qui dit, je crois qu'on est, on est un peu amis, non? Je crois, ça y ressemble, non? Et puis, il veut avoir la confirmation de l'autre. Ouais, ouais, chacun ses petits problèmes, hein.
T'as besoin de la validation d'autrui, Michael?
Si peu. Vraiment, c'est genre, comédien et humoriste, c'est tellement peu un métier, on a besoin de la validation des autres, je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
On va en parler, justement. Et justement, donc, t'es comédien humoriste.
Ouais.
Comment tu te définis? Parce que tu fais plein d'autres choses, en fait. Tu es aussi producteur de ton propre spectacle. Enfin, tu es une sorte de one-man couteau suisse, quoi.
C'est beau, ça, one-man couteau suisse. Ouais, c'est bien. Je sais pas trop comment je me définirais. Je fais plein de métiers en parallèle. Donc, je suis effectivement, je suis producteur, comédien, humoriste. C'est surtout ça, la base, en fait.
Produis tes propres spectacles.
Ouais, et je produis mes propres spectacles. Et en fait, je suis venu à la production de mes propres spectacles pour gagner du temps. Mm. Et parce que j'ai plutôt un tempérament indépendant. Mm. Et
entrepreneur aussi.
Oui, et entrepreneur.
Ce n'est pas le cas de tous les humoristes. Hein, faut expliquer un petit peu aux gens.
Et en fait, je me souviens du premier jour où je suis rentré en école de théâtre. J'ai fait une école de commerce avant de commencer ce métier de troubadour.
On va en parler.
Et en école de commerce et dans toute ma vie, mon motto, ça a toujours été un peu d'être le gugus différent, tu vois, d'être différent des autres. Et je suis arrivé en école d'art dramatique et en fait, je n'étais qu'avec des gens qui voulaient être différents, tu vois. Ça fait une grosse claque à l'ego.
Ouais.
Et puis le premier jour, je suis arrivé, on était 90 dans le théâtre, tu vois, 90 élèves comédiens. Et j'essaye de parler avec les autres élèves, et notamment les deuxième et troisième années. Je leur dis, bon, et vous, à quoi ça ressemble? Enfin, est-ce que vous avez mis un pied dans le métier et tout? Et ils me disaient tous, ouais, moi j'ai un agent et j'attends qu'il m'appelle. Et je lui dis, mais il t'appelle souvent, ton agent? Parce que vraiment, j'étais très très novice, je viens pas du tout d'une famille du métier et tout. Et il me dit, ouais, bah, une fois ou deux fois par an, il m'appelle pour me faire passer un casting. Et moi, je me disais, mais tu fais quoi le reste du temps? Enfin, c'était ma question intérieure. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ok, j'aime pas attendre, en fait. Et si je me mets dans cette position-là, je vais exploser en vol. C'est-à-dire, vous me voyez là, en bonne santé, mais dans six mois, je suis plus de ce monde. Et donc, assez vite, en fait, je me suis dit, mais il faut que je prenne mon destin en main et que j'essaie de comprendre les tenants et les aboutissants de ce métier. Et c'est un peu comme ça que j'en suis venu à la production. Alors, ça m'a vachement plu de mettre les mains là-dedans. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai ajouté des casquettes au fur et à mesure. Parce que la base de la base, c'était j'ai envie d'être sur scène, parce que c'est l'endroit où je me sens vraiment bien, vraiment heureux. J'ai l'impression de réussir à créer du lien avec les gens et du lien entre les gens. Et ça me... Rien que d'en parler là, ça vraiment, j'ai l'impression...
Tu sens.
Ouais, je sens que c'est ma place. Et je me suis dit, bon, bah alors, donc je vais faire de la production. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, et si je faisais des programmes sur Internet? Donc j'ai appris à faire de la vidéo, j'ai appris à faire du montage. Et comme ça, j'ai rajouté des trucs au fur et à mesure, quoi.
Alors, merci pour tout ça, parce que ton autre actu, en fait, c'est que tu joues dans cette pièce au théâtre du Gymnase.
Ouais, qui s'appelle Le Montespan.
Voilà.
Et qui est adapté d'un roman de Jean Tellet. Et Le Montespan, comme ça tes auditeurs savent de quoi ça parle, ça raconte l'histoire du plus célèbre cocu de France, l'homme qui s'est fait voler sa femme par Louis XIV et qui s'est battu toute sa vie contre le pouvoir et contre le roi pour essayer de la récupérer. Et quand on m'a fait lire, moi, ce roman, quand on m'a proposé ça, j'ai trouvé que c'était bouleversant, en fait, de modernité. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose de... pour être un auditeur d'histoire de mec, je trouve qu'en fait, on pourrait faire quasiment une histoire de mec autour du Montespan. Mmh. Parce que c'est un mec moderne, c'est un mec qui s'est fait voler sa femme par un autre type, qui est hyper puissant, qui a le droit de vie ou de mort sur tout le monde, et qui en plus, et ça on le découvre un peu au fur et à mesure de la pièce, est un gros dégueulasse. Le roi de France, Louis XIV, enfin, on a tendance à nous parler du faste de Versailles...
Oui.
Et en fait, bah, c'est quand même une bande de mecs qui sont des gros cochons, quoi. Enfin, voilà. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, que Jean Telet, il en parle comme ça. Donc, il y a un côté dans la pièce, à la fois, on amène les gens dans le grand siècle, le siècle du Roi Soleil, et en même temps, avec un côté super punk, un langage d'aujourd'hui, des scènes qui sont hyper osées, ouais. Je trouve. Et voilà, et c'est un grand kiff à défendre. Et puis en plus, on m'a proposé une partition qui, moi, m'amusait follement.
Oui.
Parce que je joue dans la pièce.
152 personnages.
Ouais, c'est ça, exactement. Je joue pas. 19 personnages dans la pièce.
Oui, énormément de personnages.
Ouais.
Ou juste, à un moment donné, tu vas sur le côté, tu fais une sorte de tour sur toi-même et tu rajoutes un chapeau et boum, t'es plus la même personne.
Ouais, c'était vraiment l'amusement total d'essayer de faire ça, quoi.
Bon, on va parler de tout ça.
Ouais. Mais
avant tout. La question que je voudrais te poser et la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Michael ? Je t'imagine très bien quand tu avais 7-8 ans. Est-ce que tu n'étais pas un peu smartass par hasard ? Smartass, you know ?
Un peu.
Le gamin qui sait tout.
Un peu. Un peu le gamin qui sait tout et surtout, je crois, le gamin qui cherche l'attention à fond de tout le monde. Je me suis rappelé d'un truc il n'y a pas très longtemps, c'est que ma mère et surtout ma mère disaient quand ils avaient des amis à la maison, Michael fait du charme. Et Michael fait du charme, c'était regarder les gens et cligner des yeux. Et donc je les regardais avec mes yeux, j'ai les yeux verts, et donc je les regardais avec mes grands yeux comme ça, et je clignais des yeux et ça faisait rire tout le monde. Et oui, un petit monsieur je sais tout, quand même. Déjà un peu cérébral comme garçon, ça a complètement disparu depuis, oui. Évidemment. Et puis ouais je cherchais l'attention, ouais. C'est à ça qu'il ressemblait, joyeux, une enfance là 7-8 ans très heureuse, et très tôt, et ça je l'ai conscientisé vachement plus tard, mais très tôt passionné par le rire. Mais vraiment passionné par le rire. C'est-à-dire que je l'ai réalisé un jour sur scène et j'ai failli m'effondrer en larmes. Il y avait mes parents dans la salle et j'ai entendu le rire de mes parents et j'ai revécu la scène de moi, petit garçon, avec mes parents devant la télé à regarder un film de De Funès et les entendre rire et me dire « Je veux provoquer le même son chez mes parents ».
Ok, bah fin du spectacle, fin du podcast, pardon.
Ouais.
Waouh. Ok. C'était quand ça ?
C'est il y a 3-4 ans.
Ah ouais ?
Ouais.
Donc t'étais déjà bien avancé dans ta carrière.
Ouais, et j'avais jamais réalisé.
Et donc, est-ce que t'es en train de dire que t'es devenu humoriste comme ça pour faire marrer tes parents à la fin ?
Ouais, je crois que c'est... Oui. Mais pas que, c'est-à-dire pour faire marrer en général.
Ouais.
J'ai découvert plus tard une phrase de Romain Gary qui me bouleverse, qui dit qu'en fait, l'humour, c'est une déclaration de dignité de l'homme sur ce qui lui arrive. C'est une manière de prendre le dessus sur une tragédie qui lui vient. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. À un moment de dire, ok, bah, en fait... c'est la merde, j'y suis jusqu'au cou là, mais en fait je vais en rire et en fait je sortirai des sables mouvants comme ça.
Alors tu viens de me dire deux trucs, tu m'as dit à 7-8 ans j'avais une enfance heureuse et là tu viens de me sortir une phrase où tu me dis ok c'est la merde, est-ce qu'il y a un moment donné où ça a été la merde ?
Ouais.
Ok.
Ouais. Ouais, alors bon, c'est un truc que je raconte assez peu souvent.
Ok.
Et qui a été un peu aussi là une révélation. Je crois que ça a été un deuxième déclic après cette histoire de Louis de Funès là. J'ai eu un très grave accident de voiture avec ma sœur quand j'avais 17 ans. C'est elle qui conduisait et elle a perdu le contrôle de la voiture. Ça a été un moment hyper tragique, hyper traumatisant, parce que quand je suis sorti de la voiture, et je m'arrêterai là sur les détails parce que ça sert à rien, mais je suis sorti de la voiture et ma sœur était inconsciente. Donc c'était vraiment très dur. Et on est arrivé, j'ai été hospitalisé aussi, on est arrivé à l'hôpital et en fait ma sœur était encore était encore inconsciente. Et en fait je ne savais pas du tout ce qui allait advenir de la vie de ma sœur. Sachant, c'était grave. Elle, aujourd'hui, elle va très bien.
Ouais. Elle était dans un état...
Elle était dans un état, elle était totalement inconsciente.
Oui.
Donc je savais pas si elle était vivante. J'ai su assez vite qu'elle était vivante,
ouais.
Mais je ne savais pas du tout
dans quel état
elle allait être. Elle a eu une fracture de la colonne. Enfin bon, c'était hyper costaud. Et donc moi je suis un vrai miraculé de la route, c'est-à-dire qu'en fait il m'est arrivé pas grand-chose hormis que mon visage a tapé le tableau de bord et donc je ressemblais à Rocky Balboa en fin de combat quoi. Et je suis donc gardé à l'hôpital pour une nuit en observation. Et en fait, j'étais vraiment en choc post-traumatique bien costaud, quoi. Et quand t'es en observation, toutes les deux heures, enfin là en tout cas, toutes les deux heures, on venait me réveiller pour prendre ma température, pour vérifier que j'allais bien. Sauf qu'en fait, il te faut à peu près, je sais pas, 1h50 pour t'endormir. Donc en fait, tu dors 10 minutes et paf, on te réveille. Et ça m'est arrivé trois fois comme ça dans la nuit. Et au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol. Donc j'ai enlevé tous mes capteurs. Ça a sonné, ça a bipé à fond. Et les infirmières me voient sortir de ma chambre. Elles font « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez un papier et un stylo ? » J'ai pris un papier et un stylo. Et je te jure que c'est vrai. Ce soir-là, j'ai écrit les deux premiers.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mes sketchs de ma vie. Enfin, cette nuit-là.
À 17 ans.
À 17 ans.
C'était ouais. Sur quoi?
Un, c'était sur l'école, et le deuxième, eh ben, je sais plus.
Mais alors, il est où le lien?
Le lien, il est que je crois que c'est un truc dans ma vie qui est que quand ça va pas, faut que j'arrive à en rire. Un moment. Et d'ailleurs, je vois très bien ce réflexe que je continue d'avoir, d'essayer de saisir des sujets un peu deep et d'en faire de l'humour. Et de la compréhension. Parce que les deux vont ensemble pour moi. C'est-à-dire que le métier d'humoriste... Le métier d'humoriste, pour moi, aujourd'hui, c'est une sorte de métier de designer. Un peu comme peut l'être un infographiste. C'est-à-dire qu'on va se saisir d'un sujet et on va se dire, ok, je vais réussir à le tordre d'une certaine manière et à le présenter d'une certaine manière pour en fait que les gens, ils le comprennent autrement. Et que par le rire, ils reprennent le dessus là-dessus. Tu vois, je sais pas, je te prends un exemple. Là, une des dernières vidéos que j'ai faites, c'est sur cette polémique du col roulé.
Oui.
Moi, ça me fait vachement marrer, ce truc du col roulé. Je trouve d'abord, on a un rapport à la mode en France qui est complètement fascinant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une révolte, ça se passe par la mode. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a eu les sans-culottes, les gilets jaunes, les bonnets rouges, maintenant les cols roulés. Enfin, tu te dis, c'est quand même incroyable, quoi. Et je me disais, bon, ok, on voit tous, en fait, les grosses ficelles de ce truc. Donc, déjà, je vais m'en moquer, parce qu'en fait, c'est toujours un peu facile de se moquer des gens qui ont du pouvoir et puis ça fonctionne toujours très bien. Donc je me suis dit ok, on va se moquer quand même de cette grosse ficelle de Bruno Le Maire qui tient un bouquin à son bureau avec son col roulé et qui dit la sobriété c'est maintenant quoi. Tu dis non mais sérieusement, enfin voilà. Et en même temps de dire oui mais ce qui se cache derrière, en fait ce serait dommage d'oublier le message qui se cache derrière qui est bah en fait mettre un col roulé c'est peut-être mettre un degré de moins dans son appart. Et ça paraît couillon, mais bon, les chiffres le disent, ça aidera. Et dans une période où il faut faire preuve de, et c'est ce que je dis dans la vidéo, que tout dépend qu'on voit l'hiver à moitié plein ou à moitié vide, c'est une affaire de fraternité ou de solidarité. Et voilà, et tu vois, à un moment, c'est juste là de délivrer un truc avec les gens, de dire, ok, bon, et si on s'arrêtait pas juste à ce coup de com', qui est un peu grosse ficelle, un peu idiot, et si juste on entendait le truc qu'il y a derrière, de se dire, ok, bon, bah, même si quand je mets un col roulé, j'ai un peu l'impression de ressembler à Bruno Le Maire, et c'est pas très flatteur quand je suis devant mon miroir, en fait, ça a du sens.
Et t'as l'impression que, en tant qu'artiste aujourd'hui, c'est important d'avoir ce moment de décryptage-là, en tout cas pour toi, d'avoir cette fonction. Parce qu'en vrai, moi, j'ai préféré que Bruno Le Maire, il vienne, il explique, tu vois.
Non, mais on est mille fois d'accord. Non, mais on est mille fois d'accord. Mais ça c'est une autre révolte, tu vois. Et je sais qu'en fait, je continue à faire de l'humour pour surtout pas faire de politique.
Tu vois, ah ouais, à ce point.
Non, mais parce que je trouve ça triste en fait qu'on sache pas partager un message comme ça en fait, qui est à mon sens pas si compliqué que ça. Pour en revenir à ta question sur la mission de l'artiste, je saurais pas répondre et j'ai pas de réponse définitive là-dessus.
Pour ta mission
mais,
à toi.
Mais pour ma mission, ouais, à moi, je crois que je sais pas faire autrement en fait. Déjà parce qu'en fait, j'adore comprendre les choses. Le fait de les comprendre, ça me rassure énormément. Et donc, ça me redonne de la dignité, tu vois. Et le fait d'en rire, c'est la cerise sur le gâteau. Tu vois, je me dis, ok, j'ai compris. Et en plus, on peut en rire ensemble. Donc, ça veut dire qu'on a dépassé un truc. On a dépassé le stade de on subit et on en souffre. Et puis, en fait, bah, force est de constater que je fais pas un métier comme les autres. C'est-à-dire que je pratique même pas un art comme les autres. Et c'est un truc dont j'ai de plus en plus conscience. J'ai la chance d'être humoriste et c'est probablement le métier artistique aujourd'hui qui est le plus en avant médiatiquement. Et c'est vraiment, et je dis ça en disant, c'est vraiment une chance. C'est-à-dire que je pourrais aussi être artiste plasticien.
Ouais.
Et je galérerais pour qu'il y ait des médias qui viennent me voir. Je serais pas là, tu vois, en train de faire une interview avec toi. Enfin.
Alors déjà un podcast.
Ouais.
Un plasticien dans un podcast.
Ouais, tu vois. Non,
mais pourquoi pas après tout?
Non, mais pourquoi pas? Mais tu vois, j'ai cette chance de m'exprimer à travers l'humour et c'est vrai qu'on est très mis en avant. Ça a un double effet, cette mise en avant. D'abord, c'est une chance. Ça me permet de potentiellement pouvoir me faire connaître au plus grand nombre. Bah, l'inconvénient de ça, c'est qu'on est très exposé. Et chacun, après, le gère comme il l'entend et comme il veut. Y a des gens qui ont envie de faire de l'humour hyper corrosif. Moi, c'est pas la manière que j'ai de m'exprimer. Et il y a des moments où je peux l'être hyper corrosif. Et je me censure pas à l'être. Il y a des moments dans mes spectacles où ça me pose pas de problème de le faire et de faire une vanne sur quelqu'un un peu hardos ou sur une situation un peu hardos. Mais c'est pas les plus belles émotions, moi, que j'ai vécues au théâtre et c'est pas celles que j'ai envie de transmettre. Et c'est pas ma manière de m'exprimer sur une scène. Donc, pour le moment, bah, c'est un peu plus de l'humour de mots, de l'humour poétique, raconter des histoires, jouer des personnages. Ça me plaît beaucoup. En fait, moi, ce qui m'a toujours énormément touché au théâtre, c'est m'asseoir dans un fauteuil et me dire qu'il y a des gens qui vont m'emmener ailleurs de mon quotidien. Et j'accorde une vraie valeur à ceux qui nous font rire sur notre quotidien. Je suis un gros fan de stand-up aussi. Je vais voir beaucoup, beaucoup d'artistes de stand-up. Mais moi, j'adore le pouvoir de la fiction. Et j'aime jouer avec les mots. C'est un truc, ma tête est foutue comme ça. Donc, ça serait vraiment aller à l'encontre. J'ai tout le temps un mot qui est à la recherche d'un autre dans ma tête. C'est comme ça. Bon. Et puis, par moments, en fait, ils prennent le pouvoir et ils jouent tout seuls dans ma tête. Et je trouve que ça a une vraie valeur, en plus, au-delà de m'amuser. Et je sais que ça amuse plein de gens aussi. Ça a une vraie valeur, c'est de nous redonner plaisir avec le langage et avec les mots. Alors, c'est possible que ce soit ce que je vais te dire là, c'est aussi une manière, moi, de me justifier, tu vois, ce que je fais dans ma vie. Hein.
Vas-y.
J'en suis bien conscient, mais
je te le dirai à la fin.
Ouais.
Alors, je crois que tu te justifies, pardon.
Ouais. Toutes les sociétés qui basculent dans la dictature, souvent, ça commence par un appauvrissement du langage. Et ce qu'on appelle la novlangue, enfin ce que George Orwell appelle notamment la novlangue. La conséquence d'appauvrir le vocabulaire des gens, en fait, c'est qu'ils n'ont plus de nuances de pensée à disposition, et donc en fait, ils ne peuvent plus se défendre. Et ils ne peuvent plus être conscients de ce qui se passe, ni dans leur corps, ni dans leur esprit, ni dans la société. Et il y a plein d'études qui prouvent, par exemple, que dans les prisons, en fait, il y a plein de gens qui ont beaucoup moins de vocabulaire. Une des explications à ça, c'est que en fait, quand on a du mal à gérer son langage, on a du mal à extérioriser ses émotions, et donc en fait, on passe par la violence. Et donc pour moi, redonner le goût de l'usage des mots, ça a aussi une vraie valeur sociale. C'est-à-dire, c'est d'enlever un petit peu les mots. C'est une langue vivante, et les mots, ils ont tendance un peu à se patiner avec le temps, un peu comme un velours qu'on porte un peu trop au niveau des coudes, bah ça se patine, ça peut faire des trous à certains moments. Il y a des mots comme ça. qui perdent de leur goût, de leur saveur. Et en s'amusant avec ces mots-là, en fait, je trouve qu'on leur redonne de la saveur. Mmh. Je trouve que, par exemple, tu vois, mon dernier spectacle, c'est autour du sommeil et des rêves. Ouais. Je trouve que m'amuser autour de cette chose si simple dans la vie, finalement, qu'est le sommeil et le rêve, jouer avec les mots du sommeil et des rêves, en fait, c'est une manière de redonner un éclairage à ce phénomène très quotidien qu'est le sommeil, qu'est le rêve, qu'est le repos, la fatigue et le travail.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de... Tu dis que tu fais ça depuis toujours ? C'est un truc que tu fais depuis que t'es gamin ?
De jouer avec les mots ?
De faire des jeux de mots, ouais.
Ouais.
Vraiment ?
Ouais. Ouais, c'est un truc qui m'a toujours amusé.
Ça te vient d'où ?
C'est assez difficile à dire.
Ah ouais ?
Enfin, ouais, c'est... Je saurais pas trop le dire.
Est-ce que c'est parce que en fait, ton daron, il était en train d'écouter... Enfin, il te faisait écouter Bobby Lapointe, ou enfin, tu vois... Bah,
même pas. C'était un grand fan de Pierre Dac. Mais Pierre Dac, je l'ai découvert beaucoup plus tard.
Ouais.
Raymond DeVos, moi je l'ai découvert super tard, l'ai découvert à 16 ans, ça a été une grosse révélation pour moi. J'avais découvert un peu avant ça les 2 minutes du peuple.
Oui.
Mais c'est Raymond DeVos qui dit, je crois que c'est Brassens, pardon, mais on est dans du name dropping de qualité quand même. C'est Brassens qui dit qu'en fait tous les enfants s'amusent avec les mots. C'est un des premiers terrains de jeu qu'on a dans notre vie, c'est les mots. Et d'ailleurs, c'est très amusant pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants en bas âge, de voir à quel point les enfants sont tous un peu des petits princes de mots tordus. Tu sais, c'est une histoire pour enfants où justement, c'est un prince qui s'amuse avec le langage comme ça, qui fait des confusions de langues, etc. Un peu la même chose que ce qui peut arriver à des étrangers qui apprennent une nouvelle langue. Tu vois, par exemple, chez Jamel, dans ses premiers spectacles, c'est hyper riche en mots tordus, ouais. Comme ça. C'est merveilleux. Et donc, c'est quelque chose qui j'avais en moi, je me suis amusé tout petit avec les mots et je ne l'ai pas trop perdu. C'est un truc, ça faisait rire mon entourage. Donc forcément, enfin, moi, je sais très bien que si je fais rire les gens, c'est pour qu'on m'aime. Enfin, tu vois, je me fais pas trop d'histoire sur ce sujet-là. Tu vois, je sais que j'ai envie qu'on m'aime et j'aime faire rire les gens pour qu'on m'aime.
Mais alors moi, c'est ouf, dans ce que tu me racontes, que tu sois passé par le jeu de mots pour te dire « Ok, je vais me faire aimer ». C'est parce qu'en fait, quand tu étais petit, tu voyais que ça avait un effet, entre guillemets, sur les gens.
En fait, c'est le fait de faire rire fait que tu es aimé.
Ouais.
Enfin, ça dépend de quel rire tu provoques. Oui. C'est-à-dire que si c'est un rire de moquerie, à un moment, et je l'ai vécu, tu vois, de moquer de gens et de me rendre compte, j'ai fait rire plein de gens, mais c'est peut-être pas si bien que ça, en fait, ce que je suis en train de faire. De faire rire, je me suis rendu compte qu'on m'aimait. Et puis, en fait, moi, j'adore l'esprit, en fait. C'est-à-dire, quelqu'un qui a de l'esprit, je trouve que c'est... Pour moi, c'est le rire plus quelque chose, ça me fait des chatouilles dans le cerveau, j'ai l'impression que c'est du champagne, quoi. C'est trop bien, j'adore ça. Et c'est comme ça que, même beaucoup plus tard, j'ai découvert ceux qu'on appelait encore pas du tout des humoristes, mais ceux qu'on appelle les hommes d'esprit du début du XXe siècle. Et là, je vais name-dropper à fond. C'est Jules Renard, c'est Octave Mirbeau, c'est Sacha Guitry. Moi, j'adore lire ces gens, quoi. C'est vraiment des guilis dans ma tête, quoi. J'adore ça. Et donc, je crois que ça a été une sorte de confusion des genres. C'est-à-dire, en fait, je suis bon pour faire des jeux de mots. Ça faisait un peu rire les gens. J'avais l'impression de pouvoir être moi-même et d'être aimé en étant moi-même. Et ça, on sait à quel point ça peut être précieux étant jeune. Et donc, je crois que c'est un peu comme ça que ça s'est construit.
Alors moi, il y a autre chose dans ton parcours que je trouve singulier, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as mentionné, mais tu as fait une école de commerce.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à 17 ans, tu écris ton premier sketch.
Ouais.
Quand apparemment, ouais. Tu es dans l'hôpital et tout. Hein.
Ouais.
Et en fait, c'est quoi le lien de te dire, ok, en fait, t'es dans ce moment, j'imagine, de détresse ultra fort. À quel point ça t'ouvre en toi le fait d'écrire ce truc ?
Ouais.
Ça a dû t'ouvrir une porte dingue, non ?
Ouais. Oui.
Vous ne le voyez pas là, mais il est parti dans ses...
Ouais, je suis parti dans mes pensées. Non, en fait, en école de commerce, après, je me suis rendu compte que j'avais rencontré beaucoup de clowns. beaucoup, mais pas beaucoup qui en avaient fait un métier, tu vois. Non, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que j'étais plutôt créatif, de nature. Et à l'époque où j'écris mon premier sketch, alors à cette époque-là, déjà, je regarde énormément d'humoristes. C'est-à-dire, je suis biberonné à Franck Dubosc. D'ailleurs, mes premiers sketchs, c'est écrit, c'est du Franck Dubosc. En mille fois moins bien, évidemment, mais c'est vraiment dans l'esprit de Franck Dubosc. J'ai été biberonné à Franck Dubosc, à Jamel, à Gad Elmaleh, à Donf, Elise Moon, à fond. Tous ces gens m'ont beaucoup, beaucoup inspiré, quoi. Et même quand il y avait des spectacles de fin d'année et tout, je refaisais des sketchs de ces gens-là. Enfin,
bah oui.
Et donc, j'écris ce sketch. C'est la première fois de ma vie que j'écris réellement. Enfin, hormis écrire des exercices de cours, quoi.
Ouais. T'avais jamais eu vraiment la plume à te dire tiens,
non,
en fait j'ai envie
pas trop, okay, d'accord. Pas trop. Et en fait je crois que c'était tellement je l'ai tellement rapproché dans ma tête de l'événement traumatique que je venais de vivre qu'en fait ça m'a pas forcément ouvert tant de trucs, même si quelques années plus tard, Non, mais même pas en fait, je te dis une bêtise. J'allais dire quelques années plus tard, je les ai lus à des gens, mais ces sketchs-là, je les ai jamais lus, c'était d'autres trucs que j'ai lus. Mais en fait, à ce moment-là, ma manière d'exprimer ma créativité, c'est que je faisais des vêtements, je customisais des vêtements et j'apprenais à faire de la couture. Et en fait, j'ai un père qui a eu un parcours en entreprise super admirable. Il a pas son bac, il a fait toute sa carrière dans la sidérurgie et la métallurgie, et puis il a fini par devenir chef d'entreprise. Et entrepreneur. Et un jour, je me souviens, donc je fais mes vêtements, je fais ma marque de vêtements. En fait, je crée ma marque de vêtements. J'arrive même à les vendre dans une boutique. Je suis originaire de Metz. J'arrive même à les vendre dans une boutique à Metz. Tiens, je viens d'avoir un flash d'un truc incroyable. Pardon, je le dis, je sais pas si tu le diras, mais avec l'argent que j'ai gagné avec les vêtements que j'ai vendus, j'ai acheté une paire de chaussures à ma sœur qu'elle avait le jour de l'accident et qu'on n'a jamais retrouvé parce qu'en fait, les chaussures ont été enlevées par les pompiers.
Waouh.
Ouais, bon, je me souvenais plus de ça. Ok. Donc, un jour, je vais voir mon père et je lui dis, bah voilà, papa, je crois qu'en fait, j'adore faire des vêtements. Est-ce que tu serais d'accord d'investir dans une marque de vêtements de ton fils, en gros? Et mon père m'a répondu, mon père m'a regardé, et en fait c'était en vrai, aujourd'hui je lui suis hyper reconnaissant de ça, il m'a regardé, il m'a dit « Ok, c'est quoi ton pitch ?» Et je dis « Mon quoi ?» j'ai 17 ans, je descends de ma chambre en caleçon et en t-shirt, et après avoir tagué un truc tu vois, au feutre sur un t-shirt, tu vois, il me dit « C'est quoi ton pitch ?» Je dis, mais bon, je sais pas, j'ai dû faire à l'époque un jeu de mots en disant, ben, mon pitch est dans ma poche, tu vois, un truc.
Allez!
Comme ça. Voilà. Et je dis, mais c'est quoi? Il me dit, ben voilà, si tu devais résumer en une phrase ta marque, ton idée, c'est quoi? Je sèche complètement. Et il me dit, un peu, tu vois, dur quand même. Ouais. Il me dit, ben voilà, quand t'auras ton pitch, reviens me voir. Et on en parle.
Dur, mais juste.
Dur, mais juste. Et puis je reviens le voir quelques temps plus tard. Et je lui reparle de ça. Et il me dit, écoute, tu sais, si jamais tu veux faire des études d'art, tu feras des études d'art. On t'aidera. Mais, c'est fou, en fait, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais, les études d'art, enfin, les métiers artistiques, ça peut marcher pendant 6 mois et après, ça peut être la galère pendant 30 ans. Vision de gens qui, objectivement, ne connaissent pas l'art.
Ne savent pas ce que c'est.
Et en fait, moi, j'adorais créer des choses. Je voyais mon père qui était entrepreneur, ma sœur qui avait fait une école de commerce. Moi, plutôt bon élève et super curieux de tout. Mmh. Et je me suis dit, ok, bon, bah, je vais faire comme mon père, je vais créer mais des entreprises, en fait. Et donc, je me dis, bon, bah, je vais me lancer dans une prépa. Et c'est comme ça que je fais une prépa HEC. Et je fais une prépa HEC, je kiffe ma prépa. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'adore cette période, hyper stimulante intellectuellement, quoi. Alors évidemment, pas hyper stimulante socialement, ça clairement, mais oui. Hyper stimulante intellectuellement. Et puis je rentre en école de commerce. Et en école de commerce, super vite, je me dis, ok, c'est quoi les métiers créatifs ici? Ça a été un de mes premiers réflexes. Bon, bah, j'ai eu 2-3 cours de comptabilité analytique, je me suis rendu compte que c'était pas par là que ça se jouait, quoi. Et puis, j'ai des cours de marketing et je me dis, oh, ça a l'air d'être plutôt créatif, le marketing. Et donc, marketing et pub, j'ai toujours eu plutôt un bon sens visuel des choses, j'ai toujours aimé ça. Et donc, très vite, mon premier stage, je rentre, je fais de la pub. Deuxième stage, je fais du marketing. Et en fait, mon deuxième stage, je rentre dans une très grande boîte française de cosmétiques qui est connue pour être le temple du marketing dans ce pays. Si t'as pas la ref, si t'as forcément la ref.
Alors, je mise sur L'Oréal, mais bon.
Ouais, c'est ça. Et en fait, histoire véridique, c'est-à-dire que j'arrive chez L'Oréal et les 3 premiers jours de mon stage, c'est l'ennui, mais ultime. Mais vraiment. Et pourtant, j'ai un stage qui, à l'époque, est considéré comme un truc super. Je fais du marketing développement pour une marque qui vient d'être créée. Donc, je suis dans une start-up chez L'Oréal, tu vois. Le truc hyper cool. Et je m'ennuie, mais à crever. Et pendant mes 2 ans d'école de commerce, j'ai fait du théâtre. Et avant ça, j'avais fait de l'impro, en fait. Et ça me manque, mais de ouf, en fait. Je me dis, mais la scène me manque, en fait. Avoir ce rendez-vous chaque semaine où, en fait, je joue des textes, je raconte des histoires, je suis sur scène, je fais marrer les gens, ça me manque à fond. Et un soir, je rentre chez mes parents, chez qui je vivais à l'époque, et je prends mon ordi, et j'écris mon premier sketch. Vraiment. Et il se passe un truc ce soir-là, c'est la première fois de ma vie que j'ai vécu ça. Les mots se sont mis à jouer dans ma tête tout seul. Et j'étais devenu spectateur du truc. Et c'est un sketch qui existe toujours dans mon premier spectacle. Pourquoi que je continue à jouer? C'est un sketch sur une pièce de monnaie. C'est plein de jeux de mots sur pile ou face, et ça fait un tour de magie et tout que je fais sur scène. Et je me dis, mais waouh, là c'est ouf ce qui vient de se passer. C'est génial. Et je continue à écrire comme ça au fur et à mesure de mon ennui dans mes stages. Et puis après ça, je pars, je trouve un stage de ouf. Je pars à New York. Et je fais du planning stratégique dans une agence de pub. Et c'était passionnant. Et puis, il m'arrive un truc assez délire. Un jour, en fait, on me fait venir dans un bureau et on me dit, voilà, il faudrait que tu imagines l'avenir du hair care. Et je dis, bah, il n'y a aucun problème. Le hair care, ça me parle. Les cheveux, ça me parle à fond et tout. Et on me dit, ah non, pas le hair care. Le hair care, en me montrant le nez comme ça, en me pointant du doigt. Et je dis, mais c'est quoi le hair care? Et en fait, c'était des désodorisants pour chiottes. Et donc, me v'là au dernier étage d'un immeuble à New York, histoire véridique, tu vois. J'ai vu sur tout New York d'un côté, tout l'Hudson River de l'autre. Et là, je dois passer 2 jours à faire du jus de cerveau autour de comment on va révolutionner les désodorisants pour chiottes. Et il y a une sorte de gouffre qui s'ouvre en dessous de moi. Et je me dis, mais tu fais fausse route, mon ami. Parce que, évidemment, tu vas inventer 10 000 trucs débiles. Tu vas créer le nouveau parfum Bora Bora pour faire croire à Madame Smith qui vit au fin fond du Connecticut qu'elle va redonner un coup d'air frais à son couple en parfumant Bora Bora dans ses chiottes. Bien sûr, tu vas le faire. Mais en fait, est-ce que vraiment tu te sentiras fier et heureux de ce que tu fais là? Et c'est un peu comme si ce jour-là, j'avais joué à un jeu et on m'avait sorti les règles du jeu. Je m'étais rendu compte des règles du jeu et je m'étais dit, bon, en fait, ça me fait plus marrer. Je me suis et c'était une époque où, tu vois, on était avant 2010, où il n'y avait pas d'agence qui refusait des clients en disant, bah non, en fait, nous, on va faire que des clients qui ont de l'éthique, ouais, ou qui bossent sur des produits qui nous intéressent et tout. Et donc, je suis rentré en France avec ce truc de me dire, ouais, en fait, le marketing, la pub, il va falloir que je trouve soit des gens super cool avec qui travailler et qui me font croire en cette mission-là, soit des produits à défendre qui me font kiffer, quoi. Petite quête de sens chez ce garçon.
Sans aucun doute.
Voilà, petite quête de sens.
J'adore quand tu fais les questions et les réponses.
Voilà. Et j'en ai fait un spectacle qui s'appelle Pourquoi, qui est l'histoire, oui, d'un type qui cherche du sens, quoi. Voilà. Je rentre en France. Je continue à écrire. Mes parents ne savent pas que j'écris du tout. Du
ah
tout.
Oui.
Ils ne savent pas. Ils ne savent pas du tout.
Pourquoi tu ne leur dis pas?
J'ai hyper peur.
Ouais.
J'ai hyper peur. Et j'ai hyper peur et aussi, en fait. Je viens d'une famille ashkénaze, donc qui a plutôt l'angoisse facile, tu vois. on a, comme qui pourrait dire, on est pétri de, on est des bonnes pattes, mais pétri de culpabilité.
Vous n'avez pas vu le petit geste de Michael qui marche très bien.
Donc, je me dis, je vais leur éviter quand même ce vertige d'aller les voir et de leur dire, en fait, le monde de l'entreprise, j'en veux pas. Mais par contre, je peux pas vous dire ce que je vais faire. Je veux leur éviter ça, tu vois. Et donc, bon, mais je réfléchis quand même dans un coin de ma tête, je suis en quatrième année d'école de commerce, je me dis, bon, il est quand même temps, là, un moment ou un autre, de faire mon creating out, tu vois, d'une certaine manière. Et concours de circonstances incroyables, je fais un cours en école de commerce autour de la rhétorique et de la persuasion, on me file un sujet, et j'en fais un sketch. Et le jury me regarde et me font, mais c'est dingue ce que t'as fait, envoie-nous ton texte. Le soir même, je reçois un appel de mon directeur d'école de commerce, qui me dit, Michael, je veux te voir demain à 10h dans mon bureau. Et pas d'autre explication. Évidemment, je suis en école de commerce à ce moment-là. Donc, le premier truc qui me vient, c'est j'ai dû faire une connerie en soirée dont je n'ai aucun souvenir. Et en fait, il me convoque dans son bureau et il me dit, écoute, on m'a envoyé ton texte, je trouve ça génial, c'est ce que tu veux faire de ta vie? Je dis, j'en sais rien du tout, quoi. Il me dit, parce que si c'est ce que tu veux faire de ta vie, je t'offre ta première scène.
Quoi?
Ouais. En fait, à l'école, il faisait des conférences où il faisait venir des conférenciers hyper prestigieux pour les élèves. Et il a dit, là, on va faire l'inverse. Je vais mettre un élève sur scène et je vais faire venir des gens de la ville de Reims pour leur montrer qu'en école de commerce, il y a des profils hyper variés. Et je dis, ok, banco. Et en fait, bah, c'est le truc que j'attendais pour dire à mes parents, bon, bah, papa, maman, en fait, voilà, j'ai un truc à vous dire. Histoire véridique, quand j'ai dit ça, mon père, il est devenu tout blanc. Et j'ai capté dans son regard que, en fait, je lui disais, ah non, papa, je suis pas homo.
Ah oui?
Ouais. Et je lui dis, voilà, en fait, depuis 3-4 ans, j'écris des sketchs. Et je crois que c'est ça ce que je veux faire de ma vie. Et mon père, mon père m'a annoncé ce jour-là, truc de ouf, que il voulait être comédien étant jeune, ce que je ne savais pas, et que sa mère lui avait interdit, en disant que c'était pas un métier.
Et tu lui as pas dit, dis donc, tu viens exactement... Enfin, pas tu viens, mais tu m'as fait exactement la même chose.
Non, parce que ah, quand je voulais être... Oui. Mais en fait, il m'a pas dit que c'était pas un métier.
Bah,
il m'a pas dit que c'était pas un métier. Il m'a dit...
C'est un peu ce que ça veut dire aussi.
Non, je crois pas.
Ok.
Non, je crois que ça veut dire... C'est un métier risqué.
Oui.
C'est ça ce que ça veut dire.
Okay.
C'est j'ai peur pour... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est j'ai peur pour toi, mon fils. Oui. Donc, si tu pouvais me rassurer un peu, ce serait cool en faisant des études. et en fait... Et mes parents me disent ce jour-là, ils me font une réponse merveilleuse, ils me disent, est-ce que c'est ton rêve? Je dis, c'est difficile de répondre à ça. Et ils m'ont dit, mais si c'est ton rêve, va au bout de ton rêve. Et donc, je leur donne rendez-vous 6 mois plus tard. Ils connaissent rien de mon humour.
À cette fameuse scène-là?
À cette fameuse scène. On est dans le grand amphi de mon école de commerce. Il y a 500 personnes en face de moi. Et je joue la première de mon spectacle. Qui est pourquoi? Que j'ai beaucoup réécrit depuis. Et voilà. Et donc, voilà ce qui s'est passé en école de commerce. Et en fait... L'école de commerce, pour moi, a été un grand tremplin pour la vie que je mène aujourd'hui. Ça a été un tremplin pour plein de raisons, parce que d'abord, il y avait ce rapport un peu à la notoriété en école de commerce, ce petit monde-là et tout, et que c'est un truc dans lequel je me sentais plutôt à l'aise, tu vois, d'être le plus malin, d'être le mec qu'on regarde, de vouloir être différent pour qu'on te regarde, en fait.
Ok. On revient à ce fameux truc de vouloir sortir de la case, quoi.
Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé aussi parce que par exemple je me suis saisi des opportunités qui se présentaient à moi. Mon mémoire de fin d'études, je l'ai fait sur l'humour dans la publicité. Comme ça je mettais ensemble les deux. Voilà.
Mais alors tu parlais de peur de tes parents, du fait que t'es peur aussi, en fait c'est que des choses que je comprends. Et pour moi, il y a un truc très simple, c'est que quand t'es en école de commerce, justement, t'as des rails qui sont toutes tracés où tu vas finir consultant ou effectivement dans une agence, etc. Moi, je trouve ça intéressant, tu vois, de te dire, ok, entre la peur qui en plus, ta peur à toi qui est en plus chargée de la peur de tes parents et puis bah, cette envie de vouloir accomplir ton rêve, c'est quand même chaud, tu vois, de passer... De te dire, ok, bah, en fait, il y a ces rails-là qui sont toutes tracées et on en connaît plein. Enfin, moi, j'ai plein d'amis qui ont fait école de commerce, consultant pendant 5 ans, qui pètent un câble, qui finissent par se reconvertir, alors soit humoriste, soit dans les métiers du spectacle, parce qu'en fait, elles ont raté leur vocation, elles ou ils ont raté leur vocation. C'est quoi le truc qui te fait dire c'est vraiment ce moment à New York là où tu te dis
Non, je pense que c'est plein de petites choses, c'est plein de petits déclics. Par contre, c'est marrant parce que en te le disant, je réalise quelque chose. Je crois que pendant toute la première partie de ma vie et aussi de ma carrière, ça a été des très longs moments d'inconscience et des très brefs moments de grande lucidité. Où en fait, j'ai levé la tête, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être une bonne étoile au-dessus de ma tête, elle est dans cette direction, je vais dans cette direction, et puis après, j'y pense plus. Et vraiment, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est assez marrant parce que je crois que j'ai vécu une deuxième phase dans ma carrière, où en fait, j'étais dans l'hyperconscience et dans le tout contrôle, à fond. Et ça a été une période hyper, beaucoup plus douloureuse. Et là, j'en sors.
Où tu veux remettre un peu de lâcher prise ?
Ouais.
C'est ça ?
Ouais. Ouais. Et surtout, complètement.
Comment t'as fait pour passer de l'un à l'autre et de te rendre compte qu'en fait, c'était pas ça qu'il fallait ?
Comment je suis passé d'inconscience à conscience ?
Ouais. Déjà, comment... C'est hyper intéressant de... Je me demandais, est-ce que t'as en tête... Comment t'as fait pour rentrer dans ce truc d'inconscience ? Est-ce que c'est parce que justement t'étais sorti de ces rails et que de ce fait-là t'avais pas vraiment la carte, quoi, tu vois ? T'as pas de parents qui t'ont ramené là. T'y vas un peu au pif, quoi, tu vois, à l'instinct et à l'intuition ?
Ouais, j'y vais au pif. Et j'y vais au pif et quand même avec cette chance d'avoir ce background d'école de commerce par rapport à ce métier de comédien ou d'humoriste et en fait de venir avec des réflexes qui sont plutôt des bons réflexes, tu vois. Par exemple, le jour où je recrée Pourquoi pour la première fois, j'ai le réflexe d'investir tout l'argent que je reçois ce jour-là dans la captation du spectacle, donc dans le fait de payer des caméramans et d'envoyer des DVD au théâtre à Paris. Et puis, il y a un théâtre qui me répond, qui fait « ça marche, nous, on te prend dans un mois. Tu peux démarrer tous les lundis à 21h30. » Ok, cool, j'y vais. Et comme ça, j'ai eu des réflexes. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des gens et d'avoir des gens qui ont commencé à m'entourer et qui m'ont aidé sur plein de réflexes comme ça. Ce qui a fait, je pense, à un moment que je suis passé de l'inconscience à la conscience, c'est des blessures, c'est des vrais moments de déconvenue dans ce métier, en fait. Des moments où... où ça se passait plus bien avec les gens qui m'entouraient et où à mon avis je suis pas passé loin une fois du burn-out. En fait, j'ai fait une très très grosse saison qui a été ma plus grosse saison. Ce qu'on appelle saison, c'est donc de
juin à juin, de septembre à juin,
pardon. Ouais, et je fais une saison comme ça où j'ai mon spectacle qui s'appelle Pourquoi, qui cartonne, mais vraiment je vis un rêve. C'est mon premier spectacle, je vis un rêve. Et en fait, je suis repéré pour démarrer sur Europe 1. Et donc, je démarre dans la matinale de Patrick Cohen. Ce qui était vraiment, pour moi, un rêve de faire de la chronique. C'est un truc que j'adore. Ouais. En fait, j'adore ça. Et donc, je démarre le matin chez Patrick Cohen dans la matinale d'Europe 1. En même temps, je suis contacté par un très gros éditeur qui se trouve être l'éditeur de Raymond DeVos et de Stéphane de Groot. Et qui dit, en fait, c'est toi le nouveau talent qu'on veut défendre. Et donc, je sors un livre chez Plon. En fait, moi, j'ai un rapport hyper contrarié à la langue française. C'est-à-dire que je déteste l'orthographe. Jusqu'à l'âge de 20, 22 ans, je détestais la lecture. Et donc, pour moi, écrire un livre, c'était un truc de dire « Wow, il se passe un truc, quoi. » Un peu un gros syndrome de l'imposteur, mais il se passe quand même un truc où je suis vraiment fier d'avoir cet objet dans les mains. Et en même temps, je joue mon spectacle en tournée dans toute la France, beaucoup, beaucoup, dans des salles très grandes, où ça remplit très très bien. Et dans la foulée, je suis au studio des Champs-Élysées, salle de 200 places, hyper prestigieuse à Paris, et je joue pendant 5 mois d'affilée. Et je tire vraiment fort sur la corde. Et je me souviendrai pas mal d'un truc qui m'est arrivé. C'est qu'en fait, il y a un moment où tu jettes un peu la pièce en l'air, en fait, dans ce métier. C'est-à-dire, tu dis, je fais tout ce que je peux faire sur scène, mais il y a des trucs, il y a des leviers sur lesquels je peux pas les activer, en fait. Et un des leviers que tu peux pas activer, c'est la notoriété. Tu peux essayer de faciliter ça, tu vois, mais tu peux rien faire de plus, quoi. Et je me souviens d'un jour, ça a été d'une violence, mais vraiment terrible, où en fait, mon attaché de presse de l'époque m'appelle, je suis dans le métro, avant d'aller faire ma chronique chez Patrick Cohen. Donc, on est vendredi matin, il est 7h30 du matin, je vois un appel de mon attaché de presse, je me dis, il y a quelque chose de grave. Et il m'appelle pour me faire part de sa désillusion, me dire, écoute, j'y arrive pas, quoi. Écoute, vraiment, j'y arrive pas, avec toi, j'y arrive pas, quoi. Moi, j'ai lancé les plus grands, mais toi, j'y arrive pas. Je dis, ok, d'accord, mais c'est-à-dire... Il me dit, tu vois, là, j'ai passé ma soirée hier à appeler des journalistes. Bon, en fait, tu les intéresses pas. Et ce moment, ça a été hyper violent. Ça a été hyper violent parce que, évidemment, je suis totalement impuissant face à cette situation. Je peux rien faire. Tout est dans les mains de ce type, en fait, concernant ce qu'on appelle la notoriété, tu vois. Je peux pas faire beaucoup plus que ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai un livre qui sort chez un des éditeurs les plus cotés, je suis sur Europe 1 à une période où Europe est encore, va bien, tu vois. Je suis au studio des Champs-Élysées, qu'est-ce que je peux faire de plus, tu vois. Et on me répond ça, et je suis coproducteur du spectacle, moi. Et pour la première fois de ma vie, je m'étais dit un truc. Je m'étais dit, le jour où la production... c'est à 6 chiffres, fin de la blague, tu le fais plus tout seul. C'est un truc que je m'étais dit, voilà, j'ai pas du tout envie. J'ai appris à le vivre, d'être producteur de mes spectacles et d'être aussi sur scène. Et il y a un moment où, en fait, quand à chaque fois que tu rentres sur scène, tu te dis, là, je suis en train de perdre 5000 euros. C'est dur d'être drôle. C'est vraiment dur.
Parce qu'en gros, pour expliquer un peu aux gens, ouais. Quand tu produis... tu avances l'argent
bien sûr.
Au théâtre.
Bien sûr.
Donc tu prends tous les risques.
Tu prends tous les risques.
Voilà.
Ouais, tu prends
tous les risques. Si tu remplis pas la salle suffisamment, tu perds de l'argent.
Exactement.
Okay.
Et ça m'a mis du temps, tu vois, pour capter ce truc-là, de dire, ok, maintenant, en fait, on va faire différemment. C'est-à-dire que tu vas un peu moins regarder les chiffres, ou alors tu vas apprendre juste à dire, ok, toi, ton job, là, c'est de les faire marrer. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour pas en perdre trop. Et peut-être un jour, qui sait, en gagner. Mais bon, ça, c'était un projet à très long terme. Et je vis ça, mais ça a été une blessure, mais terrible. Parce qu'en fait, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, le type te dit ça, tu n'intéresses pas les journalistes. Et en fait, j'ai l'impression que ce jour-là, on m'a dit le Père Noël n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, je suis passé dans un état de conscience, d'hyperconscience. Et puis, il m'est arrivé d'autres trucs, tu vois, comme ça. Des gens qui te font des promesses, tu vois, combien de fois il y a des gens en télé qui m'ont appelé, qui m'ont fait passer des castings pour rentrer en télé, tu vois, qui me disent, mais c'est génial ce que tu fais, et qui te mettent une pression d'enfer, qui disent, écoute, là, c'est pour démarrer, mais dans 2 semaines, quoi. Tu ponds un concept de chronique de ouf, tu leur fais la chronique, ils te disent, mais c'est génial, je te rappelle. Et les gens te rappellent pas, et quand tu les rappelles pour leur dire, et maintenant, eh mais ça va là, ça va, enfin tu vas pas non plus me mettre la pression, enfin tu comprends un peu ce que je vis. Tu dis, ok, fine, ok. Et donc, il y a un moment où en fait, je crois qu'il y a une phrase d'entraîneur de foot que j'aime bien et qui résume bien ça, c'est qu'à un moment, l'enjeu prend le pas sur le jeu. Et que mon métier, c'est de jouer. En fait, mon métier, c'est de jouer en tant que comédien, c'est de jouer avec les mots en tant qu'auteur, c'est d'être dans le jeu. Et c'est très difficile de pas, à un moment, tomber dans trop d'enjeux, en fait. Et je crois que je suis tombé dans un truc d'hyperconscience. Et voilà, et j'ai l'impression, là maintenant, d'en sortir et de me dire, en fait, je me dis plusieurs trucs, en fait. Le premier, c'est je me dis, j'ai fait un premier spectacle, j'ai eu à peu près toute la presse du monde qui a encensé mon premier spectacle, j'en suis à plus de 500 représentations, j'ai gagné des prix avec, ok, ça je l'ai fait, c'est cool. Mon deuxième spectacle, il cartonne, J'en suis hyper content. J'ai pris un risque artistique. C'est ce spectacle sur le sommeil où, en fait, c'est un truc, bah, je crois que tu l'as vu.
Oui, tu es en pyjama entouré d'oreillers sur scène.
Voilà. C'est un ovni complet. Mm. Et en fait, c'était aussi un pari, en fait, de me dire, OK, les gens m'attendent à un endroit, je vais faire autre chose parce que j'ai envie de faire autre chose et je vais le vivre comme un geste artistique, en fait. Je l'ai fait. J'ai eu des super retours. Les gens sont contents. J'ai même réussi à faire survivre ce spectacle au Covid. Je suis hyper content. Aujourd'hui, je suis humoriste. Et c'est un truc, j'ai eu un jour une conversation avec mon père où on parlait du métier. Et je lui dis, mais en fait, je fais partie des humoristes en France qui gagnent leur vie en faisant leur métier. Alors, je suis pas Blanche Gardin, je suis pas Foresti, je suis pas ultra connu, tu vois. Mais je vis de mon métier, j'en vis vraiment correctement. Et en fait, on est moins d'humoristes à vivre de notre métier qu'il y a de joueurs de Ligue 1 en France.
Vu comme ça, je l'avais jamais perçu.
Et quand j'ai réalisé ça, je me dis, OK, ça ne veut pas dire que je suis dans l'excellence absolue. On n'enseigne pas aux gamins, depuis tout petit, à faire de l'humour. On ne leur offre pas pour leur anniversaire un nez rouge et un micro. Il n'y a pas des spectacles de stand-up ou d'humour dans les cours de récréation. C'est sûr, la comparaison peut s'arrêter vite. Mais en vrai, j'ai déjà fait un truc qui est super cool, tu vois. Et donc, je me dis, là maintenant, en fait, et puis là, je joue le Montespan, j'ai une chance incroyable. On m'a proposé un rôle extraordinaire. Je joue dans un théâtre de 700 places, qui est le théâtre de Coluche,
oui,
tu vois.
Théâtre de gymnase.
Enfin, on est dans la loge avec mes deux partenaires, on est dans la loge de Coluche, tu vois. C'est là que Coluche a fait son discours pour annoncer sa campagne présidentielle. Enfin, je me dis, waouh, je suis dans un endroit de dingue, tu vois. Et là, maintenant, je me dis, OK, lâche-toi la grappe, en fait. Juste, fais-toi plaisir. Si ça te fait marrer, c'est le premier truc qui est cool. Probablement que c'est le meilleur moyen pour faire marrer les autres. Et puis, reconstruis, en fait, à partir de ça. Et puis, tu verras ce que ça donne. Et en fait, mets-toi à ton bureau tous les matins, écris des trucs, fais-en des vidéos, teste des trucs, réinvente ton art, en quelque sorte, tu vois, explore des nouveaux territoires. Et puis tu verras en fait ce que ça donne, tu vois. Ça se trouve aujourd'hui, je suis hyper sérieux quand je dis ça, ça se trouve aujourd'hui je fais des jeux de mots, et en fait mon prochain spectacle ce sera un spectacle de mime. Je parlerai même plus, tu vois. Ce serait trop drôle, enfin ce serait vraiment le contre-pied absolu, quoi. Ce serait vraiment le mec qui va être différent de lui-même, tu vois. la névrose poussée à l'excès, quoi. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression là d'être dans un truc de dire, OK, l'enjeu, il existera toujours. Il faut que je bouffe à la fin du mois. J'ai pas envie de décevoir les gens qui me suivent déjà, qui sont aux quatre coins de la France et qui me suivent sur les réseaux sociaux, même si j'ai pas forcément une maxi communauté. C'est des gens qui sont hyper fidèles, qui sont présents et tout. Et je suis déjà hyper heureux qu'ils viennent me revoir en spectacle quand je fais un deuxième spectacle. Ces gens-là, c'est sûr, j'ai pas envie de les décevoir. Mais en même temps, je peux m'en foutre un peu, en fait. Je peux m'en foutre un peu, pas des gens, mais juste du regard que j'ai sur moi, de me dire, OK, lâche-toi la grappe, en fait.
Ouais.
Crée.
T'as l'impression que tu as passé beaucoup de temps à te comparer ?
Énormément. Ouais. Mais je continue à fond, en fait.
Encore aujourd'hui ?
Ouais, encore aujourd'hui, ouais.
C'est pas... C'est pas se lâcher la grappe, alors.
Non, mais en fait...
Se lâcher la grappe, ça veut vraiment dire, pour moi, juste faire ce que t'as envie de faire et arrêter
ouais, j'en suis pas là.
De regarder les autres.
Ouais, j'en suis pas là. J'en suis pas encore là. Mais ouais, je... En fait, c'est assez difficile de... C'est assez difficile de pas se comparer. D'abord parce que moi, j'adore les humoristes. En fait, j'adore aller voir des spectacles d'humour. J'adore regarder des vidéos d'humour. Et donc forcément, à un moment, tu vois, c'est très difficile de rester spectateur de ça, tu vois. Je pense que c'est comme pour des scénaristes, mes potes scénaristes qui vont au cinéma.
Oui.
C'est très rare les moments où ils arrivent à décrocher et à être vraiment spectateur, oui, tu vois. Et pas choper la mécanique et essayer de comprendre ce qui se passe, tu vois. Donc, forcément, à un moment, je le rapproche de moi. Mais de plus en plus, c'est marrant, je me souviens de... c'est Fabien Olicard qui, dans un de ses livres, « Votre temps est infini », je crois.
Ouais.
Il dit un truc, il dit, tu regardes quelqu'un et tu rêves de devenir ce mec. Mais ça veut dire que c'est pas possible, en fait. C'est pas possible d'avoir traversé tout ce qu'il a traversé pour devenir ce mec. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait. C'est-à-dire que, je suis hyper admiratif aujourd'hui, tu vois, de jeunes humoristes où j'ai l'impression que c'est des gens qui sont hyper libérés artistiquement. Et je me dis, waouh, j'aimerais bien être dans ce truc-là, en fait. J'aimerais bien avoir ce truc-là. Bah, peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas. Et je pense que c'est aussi... Enfin, j'ai pas envie de me priver. Aujourd'hui, je suis pas prêt à me priver de regarder des humoristes pour arrêter de me comparer. Tu vois, ça fait partie de mes grands plaisirs de regarder des humoristes. Par contre, ce qui me paraît vraiment important, c'est que je continue cette démarche-là de me dire fais ton chemin, en fait. Fais ton chemin, fais ta route. Crée tes trucs. Et puis, ce sera ton chemin et tu verras vers où ça te mène.
Et c'est même probable. C'est Kian Kojandi, je crois, qui disait qu'à partir du moment où il a arrêté de vouloir à tout prix percer, il a fini par trouver le truc, quoi.
Ouais,
tu vois.
Ouais. Et en fait, le truc, c'est que je pense aussi que le monde de l'humour est un monde qui valorise énormément la singularité. Et en fait, aujourd'hui, vouloir être Kian, ben en fait, il y en a déjà un.
Oui.
Vouloir être Raymond DeVos, ben, il y en a déjà un.
Ouais.
Vouloir être Gad Elmaleh, il y en a déjà un. Et on le voit d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on voit qu'il y a certains humoristes qui ont énormément d'influence sur des générations d'humoristes. Pour ceux qui vont en comédie club, en fait, on le voit, quoi. C'est-à-dire que je vois là toute une génération de gens qui sont ultra, ultra influencés par Roman Frayssinet et qui ont, pour beaucoup, le flow de Roman Frayssinet. Oui. De la même manière, là, je commence à voir des gens qui ont le flow de Paul Mirabel. Je vois des nanas qui ont le flow de Marina Rollman. Ça se voit. Et là, en fait, c'est un truc hyper important sur la création, c'est que ça fait partie des étapes indispensables.
Bien sûr.
Gainsbourg ne serait jamais devenu Gainsbourg s'il n'avait pas bossé tous ses classiques. En fait. Et je pense qu'une des meilleures manières d'apprendre à créer, c'est d'imiter les autres.
Il faut copier en fait.
Bien sûr.
Enfin, imiter est mieux que copier d'ailleurs. Imiter est mieux que copier.
Parce qu'en fait, on comprend mille fois mieux. Et c'est super. Et c'est un chemin, je pense, hyper important pour trouver sa propre singularité. Et puis, ça, c'est probablement un message qu'on entend peu sur l'humour, mais ça prend vachement de temps, en fait, de trouver sa singularité, de trouver son flow, de trouver sa patte. Ça prend énormément de temps.
T'as l'impression de l'avoir trouvé, toi, aujourd'hui ? T'as 30...
Je vais avoir 35.
35 ans.
Je sais pas.
Ok.
Je sais pas. Et je sais pas pour une raison, notamment, c'est que, en fait, c'est quelque chose qui a été très théorisé pour le stand-up, cette histoire de flow. Parce qu'en fait, dans le stand-up, quand même, il change peu de forme théâtrale. Je sais pas si ça, c'est un truc qui me convient. Tu vois, mon premier spectacle, c'est l'histoire d'un personnage qu'on suit de petit garçon à grand-père et que je fais évoluer tout au long de sa vie en jouant des personnages. C'est très différent de mon deuxième spectacle qui est dans un tout autre registre où c'est une pièce de théâtre que je joue tout seul et je joue 20 personnages sur scène. Donc ça n'a vraiment strictement rien à voir. Et ça se trouve, mon prochain spectacle, je te dis, ce sera un spectacle de mime, ce sera autre chose. Je sais pas. Ou peut-être que ça sera du stand-up. Peut-être que je vais m'y mettre, tu vois, au stand-up. C'est plus difficile aujourd'hui de dire que j'ai ma patte. Par contre, que j'ai ma patte dans le flow, tu vois. Mais par contre, tu vois, dans l'écriture, je me rends compte que oui, d'une certaine forme, j'ai ma patte. Ma patte, c'est les jeux de mots. Ma patte, c'est d'essayer de rendre intelligible des trucs qui le sont pas forcément, d'essayer de présenter le monde sous un regard un peu plus tendre, bienveillant et poétique. Que ce qui peut nous apparaître au quotidien, ça, je crois que ça fait partie de ma patte.
Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler ? Vous ne le voyez pas là, mais
il réfléchit.
Il est
absorbé.
Il a l'œil coquin. Il a l'œil qui pétille.
Un truc sur le passage aussi de de la conscience à je m'en fous. Il y a eu un truc, paradoxalement, de je me prends au sérieux. Et bah, on en a déjà un peu parlé ensemble, mais j'ai vécu une expérience cet été qui a été vraiment hyper fondatrice pour moi. C'est que j'ai fait le Festival d'Avignon. C'était mon 6e, donc je connaissais bien le Festival d'Avignon, mais pour la première fois, je jouais 2 spectacles à Avignon. Donc, je jouais Je pionce, donc je suis, dans lequel je suis pendant 1h20 sur scène et je joue 20 personnages. Spectacle hyper physique. Et dans le Montespan, où je joue 19 personnages pendant 1h35. Spectacle un tout petit peu moins physique parce qu'on est 3 sur scène, mais quand même, c'est pas mal. Et je joue ces 2 spectacles pendant 23 jours d'affilée, tous les jours.
Plus, pour les gens qui ne connaissent pas Avignon, ouais. Il faut que tu ailles tracter parce qu'en fait c'est ton spectacle que tu produis toi-même. Donc il faut que tu ailles aussi faire la promo de ton spectacle parce que la concurrence est vraiment ultra rude. Quoi.
Ouais, il y a 1600 spectacles par jour. Donc voilà, il faut réussir à émerger au milieu de ces 1600 spectacles. Donc j'ai tracté pendant cet été, je jouais donc les 2 spectacles chaque jour et je tractais 4 heures par jour dans les rues d'Avignon. En plus, il a fait super chaud cet été, ça facilitait pas les choses. Et en fait, quand on m'a proposé de faire les 2, j'ai eu super peur. J'ai dit oui aux 2, parce que c'était 2 super expériences qui se présentaient à moi et je trouvais que les opportunités étaient belles. Et j'ai eu super peur, vraiment super peur. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, bon, avec la peur, tu vas pas avancer des masses. Donc maintenant, comment tu fais pour y arriver? Et je me suis pris au sérieux, c'est-à-dire que j'ai vécu une expérience que je rêvais de vivre, c'était de me prendre pour un sportif de haut niveau. Et donc, j'ai bossé avec un coach sportif, j'ai mis en place un plan d'entraînement pour parvenir à faire ce spectacle-là, enfin ces 2 spectacles-là, pendant 23 jours d'affilée. Et en fait, c'était en vrai, quand je reprends le truc, c'était autant du sport que de l'art, quoi. Ça a été une expérience hyper fondatrice. Enfin, je pense que c'est pareil que pour des gens qui font un trail, en fait, et qui disent « Ah ouais, je suis capable d'aller jusque-là, en fait. » Et c'est hyper fondateur pour l'estime de soi, je trouve, et pour le fait de se dire « Ok, en fait, c'est un métier, la scène, où on a un peu toujours l'impression que c'est des one-shots, en fait. On a l'impression qu'il faut briller à un moment. » Encore plus, je trouve, avec ce que convoque un peu le stand-up, avec cette esthétique très à l'arrache, en fait. Où on a l'impression qu'en fait, les mecs, ils montent sur scène, il n'y a quasiment rien de prévu, ils prennent un micro et ils sont déments pendant 1 heure et ils sont touchés par la grâce. Bon, évidemment, enfin...
Pour les gens qui ne savent pas, plus ça paraît simple sur scène, plus il y a beaucoup de travail en dehors. Quoi.
C'est comme la magie, en fait. C'est que pour que le tour il fonctionne, il faut des heures, des années d'entraînement et tout. Et en fait, ça m'a redonné confiance dans le travail, en fait. Dans le fait de dire, ok, bon, en fait, la seule chose qui compte vraiment, c'est pas quelle est ta notoriété. Donc, encore une fois, un truc sur lequel j'ai pas de puissance, c'est quel est ton travail, en fait. Est-ce que chaque matin, quand tu te lèves, t'y vas, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé pour ça, en fait. Cette expérience-là. Et alors, c'est amusant parce que pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de célébrer cet Avignon. C'est vraiment ce que je considère comme une réussite. Et j'en suis sorti hyper fier. Et habituellement, je suis pas trop quelqu'un qui célèbre les victoires. Là, vous ne le voyez pas, mais le visage... si, là, vous l'entendez, quand même.
Pardon, j'ai fait un rire sonore.
Fab se moque un peu de moi. Donc, je suis pas quelqu'un qui célèbre beaucoup. Et puis, en fait, j'ai eu un prof de théâtre qui ne cessait de répéter une phrase de Henri de Monterland qui dit « Tout ce qui est atteint est détruit ».
Oh.
Voilà. Alors, ça pousse à vouloir faire toujours plus, mais c'est quand même... je pense que s'il fallait redéfinir de manière littéraire le burn-out, ça commencerait par cette phrase.
Waouh.
Voilà, tout ce qui est atteint est détruit. Et donc, moi, j'étais pas mal de cette veine-là, en fait. Et
je suis dans ta team, mon gars.
Ouais. C'est un long apprentissage. pour en sortir.
Oui.
Et en fait, j'ai fait un truc. Pour la première fois de ma vie, je me suis fait un cadeau qui symbolise ma réussite à Avignon. Et c'est le bracelet que j'ai autour du poignet, okay. Celui-là, en fait, qui est une sorte de bracelet tressé, en fait, avec deux types de tresses qui représentent les deux spectacles que j'ai joués à Avignon. Et de l'autre côté, en fait, le bracelet, il est ouvert, un peu ouais. comme une manchette. Et en fait, c'est pour dire, bah voilà, j'ai réussi d'une certaine manière à faire le grand écart permanent et à joindre les deux bouts. Et en fait, bah, tous les matins, je remets ce bracelet et j'essaye de me souvenir de ce truc-là pour l'ancrer en moi, en fait. De me dire, ok, bon, bah, je sais pas si c'est un truc où je dirais à mes petits-enfants « Vous savez, en 2022, les enfants, j'ai joué deux spectacles à Avignon. » Je suis pas sûr que j'en arriverai là, mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est une expérience fondatrice. Et je crois que ça a été important pour moi parce que d'abord, j'ai considéré mon travail comme une performance. Et donc, j'ai mis les choses en place pour y arriver à cette performance. Et je trouve que dans l'art, en fait, on le fait pas souvent. Et même au-delà de ça, dans le monde de l'entreprise, on le fait pas souvent. Et c'était un peu aussi une révélation en voyant Formula One, oui. La série sur Netflix, où je me dis, bon, alors évidemment, les types de Formula One, c'est pas, en quelque sorte, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'ils sont.
Alors ça, pour expliquer, mais c'est un docu ouais. sur Netflix qui retrace chaque saison, la saison de Formule 1.
Exactement.
À l'intérieur des écuries, quoi.
C'est, exactement. Voilà. Et en fait, ce que je trouve passionnant, avec Formula One, c'est de voir tout l'écosystème qui est autour d'eux, qui amène un type, un unique type, à piloter une voiture à plus de 300 km/h, qui est le fruit de centaines de millions d'euros ou dollars de recherche et développement. Et donc, c'est probablement ce qui, aujourd'hui, se fait dans le top du top de la préparation mentale, physique, etc. Et donc, je me suis dit, ok, alors, évidemment, j'ai pas dépensé tout ça, mais de me dire, ok, si je dois me prendre au sérieux pour me considérer comme quelqu'un d'important, en fait, comment je m'entoure pour y arriver? Et pour moi, c'est une super leçon et c'est un truc que je partage avec plein de gens du métier et des métiers et même des amis qui viennent d'ailleurs. Et je vois dans leurs yeux un truc qui pétille. Et en fait, voilà, se crée chacun son cadre de performance. Ouais. Je pense que c'est un truc. Voilà, c'est un truc que je voulais partager avec toi parce que je trouve que c'est un truc super beau, super épanouissant et sur lequel on a du pouvoir, en fait.
Écoute, ça pétille dans mes yeux, j'espère que tu le vois.
Ah, trop bien.
Et j'espère que ça va pétiller dans les yeux des gens qui vont écouter, les auditeurs et les auditrices d'Histoire de succès. Je mettrai tous les liens hein, afin de, ouais. d'aller suivre... Tu sors une vidéo tous les vendredis qui s'appelle Vendredi ou la vie sauvage, on en a pas parlé mais on pourrait parler de plein d'autres choses
ouais.
Où tu fais bah c'est une vidéo que tu fais face cam pour parler d'un tu fais une chronique hein, finalement
ouais c'est une chronique c'est complètement un format de chronique et tous les vendredis je donne mon avis sauvage
que t'as décidé de produire toi-même parce qu'après tout on est jamais si bien que ça fait par soi-même en attendant peut-être qu'une radio revienne te voir
ouais ouais c'est possible et en fait c'est complètement ok pour moi ce truc là parce que en fait justement dans ce schéma là enfin dans cette nouvelle phase en quelque sorte de ma vie où je me dis bah en fait je vais être libre de créer en fait pour l'avoir vécu en radio j'étais hyper libre en radio et la radio est probablement le média qui me convient enfin qui convient le mieux à la création parce qu'en fait il n'y a pas le couperet des audiences
ouais.
La télé, en fait, le lendemain d'une chronique, on vient de voir, on me dit, bah ça a décroché. Alors qu'est-ce que tu fais? Ok, d'accord, super.
Super.
C'est génial. En radio, les audiences arrivent tous les 3 mois, donc ouais. en fait, ça laisse le temps long de s'installer, etc. Et en fait, en humour, alors ça, c'est un truc qui est hyper important, c'est qu'en humour, il faut aiguiser son arme soi-même, mais il faut aussi accepter que l'humoriste doit rentrer dans les habitudes des gens. Et en fait, vous tous qui écoutez de l'humour, c'est assez rare que la première fois qu'on écoute un humoriste, on soit complètement super séduit par lui. En fait, on apprend à découvrir son système, son flow, sa manière, ses structures, ses trucs, etc. Ce qui fait que ça nous fait marrer. Et j'ai plein d'exemples comme ça en tête d'humoristes qui ont démarré en chronique et où la première année, ça marchait pas forcément ouais, ouais. du feu de Dieu. Mmh. Puis la deuxième année, ça a commencé à prendre. Tu vois, par exemple, Guillermo Guise.
Ouais.
Vraiment pour moi c'est enfin je suis totalement fan Guillermo Guise la première année je me souviens que c'était pas un énorme carton, ou Aymeric Lomprey, par exemple, tu vois. Aymeric, c'était pas un énorme carton. Et puis d'un coup, enfin, on a l'impression que c'est d'un coup, mais en fait, les gens ont commencé à s'habituer, tu vois, à se familiariser. Il y a une relation qui est créée avec l'humoriste. Et puis d'un coup, bah voilà, il se passe quelque chose. Et moi, je suis très content, en fait, de ma chaîne YouTube et de produire mes vidéos moi-même. Ça me fait remettre les mains dans le cambouis, reprendre conscience de plein de trucs. Et puis, ça me laisse totalement libre de faire un peu ce que je veux.
Merci, Mickaël.
Ouais, merci à toi.
Vous pourrez aller trouver tout, hein, et puis pour aller te voir.
Ouais, on mettra le lien du Montespan.
Voilà, exactement.
Trop bien.
Des bisous.
Bisous. Salut. Merci, Fab.
Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com, tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.